Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans le grand voyage culturel de la librairie francophone. Le Japon, l'Italie, l'ex-URSS, un pensionnat catholique en Normandie, c'est la carte et la trajectoire de cette émission aujourd'hui. Vous allez découvrir un petit bijou littéraire. C'est le roman le plus étonnant de cette rentrée en librairie. Le Belge Jean-Marc Cessy publie son premier roman chez Gallimard. Un conte subtil, inspiré par les haïkus, autour des valeurs de la vie et du temps. Nous parlerons des religions avec deux personnalités qui disent toujours ce qu'elles pensent. Florence Sestac a réalisé une BD sur un pensionnat catholique, BD préfacée par Jean Tellet. Jean Tellet qui est aussi en plateau avec nous avec son tout nouveau livre qu'il vous présente aujourd'hui en avant-première. Et puis la grande auteure franco-libanaise Vénus Kourigata vous racontera la vie terrible du poète russe Ossip Mandelstam, condamné par l'un de ses poèmes sans jamais faire la moindre concession, la culture comme un acte de résistance.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Évidemment, quatre libraires sont en plateau avec nous. On accueille, comme chaque mois, un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Casablanca, au Maroc, dans la librairie Carrefour des Livres. Bonjour Yacine Retnani.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la librairie. Où êtes-vous exactement à Casablanca? Décrivez-nous le décor, le quartier, ce que vous voyez là, à travers la fenêtre.
Alors, on est situé au Marif, qui est le centre commercial de Casablanca.
Oui.
Et depuis la fenêtre de la librairie, je vois le cordonnier qui est là depuis 30 ans aussi. Ça fait 32 ans qu'on est là. Oui. Qui est le meilleur cordonnier de Casablanca. Et je vois deux charrettes, une qui vend des figues de Barbarie et une autre qui vend des pommes.
Oui.
Et je vois une bourgeoise en train d'acheter des figues de Barbarie dans un gros 4x4 allemand.
Ah bah c'est précis. Avec un soleil ou un peu de grisaille?
Très beau.
Il fait très beau soleil. Très beau. Bon, merci Yacine pour cette description. Vous menez des actions en faveur du livre, auprès de la jeunesse notamment, hein, à Casablanca. Oui.
Exactement, donc on a plusieurs actions, parce que voilà, la difficulté c'est de faire venir des gens dans la librairie. Donc une des actions principales qui nous tient à cœur, c'est une opération qui s'appelle Lecture pour tous.
Mmh.
Par le biais d'un chèque livre financé par une entreprise mécène, des centaines d'enfants ont pu découvrir la librairie, et à la fin de la visite, ils choisissent un livre et le règlent eux-mêmes. Et notre objectif d'ici 2 ans est d'entraîner avec nous 30 000 enfants.
Très bien, avec un mécénat évidemment qui leur permet d'acheter les livres, hein, c'est ça. Bon, parfait, merci d'être avec nous Yacine, on est ravis de vous accueillir et d'accueillir le Maroc aujourd'hui. Au Canada, c'est un nouveau libraire que nous accueillons. Vous l'avez déjà entendu la saison dernière, si vous êtes des fidèles de l'émission. Il est libraire à Montréal, dans la librairie de Verdun. Bonjour Billy Robinson.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue officiellement donc dans l'équipe de la librairie francophone que vous rejoignez cette semaine.
Merci beaucoup.
Tout va bien pour vous, c'est une bonne nouvelle.
Très très bien, je suis très heureux.
En Suisse, on retrouve Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Fidèle, vous depuis quelques mois maintenant. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la voix de la Belgique cette semaine, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Florence Sestac.
Bonjour.
Alors vous publiez une sacrée bande dessinée. Vous nous emmenez dans un pensionnat catholique que vous avez fréquenté, hein,
bien sûr,
lors de votre adolescence. Voilà.
C'est que du vrai. Et
on
que
va parler de tout ça avec Jean Tellet qui est juste à côté de vous. Bonjour Jean, je vous dis bonjour tout de suite parce que je sais que vous allez intervenir à un moment.
Bonjour. Donc, monsieur. Bonjour. Ça démarre bien.
Bon, parfait. Quel respect. J'apprécie. On commence toujours cette histoire, et ça, Jean le sait parce qu'il l'a déjà fait. On commence toujours cette émission, pardon, par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, Florence Sestac. Que voulez-vous transmettre à ceux qui nous écoutent?
Eh bien, leur dire, voilà, moi quand j'étais gamine, je dessinais tout le temps, c'est une espèce de maladie, et donc je recopiais surtout les trucs de Disney, je faisais des Mickey, des Pluto dans tous mes cahiers et tout ça, et donc je lisais le journal de Mickey, et mon rêve de gamine, c'était un jour de travailler pour le journal de Mickey,
oui.
Et donc ce jour est arrivé, il y a une fille qui travaille chez Mickey qui m'a dit, eh ben viens, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la famille des blocs, il faudrait des personnages, donc j'y vais, et puis je crayonne mes personnages, et je prends le modèle de mon premier personnage, Harry Mickey, cette espèce de rat avec un gros nez, des grosses chaussures et tout ça. Et donc je porte ma bande dessinée et puis ils regardent et tous, ils disent « Ah, c'est pas mal, mais il faudrait un truc qui va pas, il faudrait diminuer les nez ». Alors je leur ai dit « Mais vous pouvez tout me demander, mais sauf ça ». Et là, il m'a dit « Ah bon, bah, tant pis pour vous, c'est raté ». Et donc je suis reparti et puis ils ont fait des tests auprès des gamins qui ont vu mes dessins et qui ont dit « Ah oui, les gros nez, c'est super, on adore et tout ». Et hop, voilà.
Et vous
donc,
ont pris.
C'est grâce aux enfants que je suis rentrée au journal de Mickey et que j'ai fait la famille des blocs.
Vous avez réussi un rêve de gosse.
Exactement.
Florence Sestac est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Jean-Marc Cessy.
Bonjour.
Vous publiez un roman incroyable entre le conte et les haïkus japonais. Vous proposez un récit d'une délicatesse absolue, épurée, aérée. C'est un roman que tout le monde peut lire. Monsieur Origami est simple mais subtil, beau comme une poésie. Bon, j'arrête là. C'est Gallimard, hein, la collection blanche la plus prestigieuse qui publie ce premier roman. Vous êtes allé au Japon pour imaginer ce livre ?
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout ?
Non, pas du tout.
Ah, c'est encore plus fort alors.
En fait, j'ai toujours aimé le Japon depuis que je suis tout petit, mais l'ambiance vient plus probablement de ma propre pratique des arts martiaux lorsque j'étais adolescent. C'est peut-être ça qui ressort dans le roman.
Ah oui, d'accord, il y a quelque chose quand même. Oui, oui. Le 27 novembre 2014, l'UNESCO a reconnu le papier washi comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et dans votre roman, il y a un maître Kurojiku qui fabrique en Italie ce fameux papier washi. Après être parti du Japon, comme ça, sans véritablement de raison, il est parti, il est arrivé en Italie dans une maison abandonnée.
Sans raison, il est parti parce qu'il a rencontré, il a...
Oui, alors ça, c'est l'histoire un peu du livre, on va pas tout dire. Oui. Il a fait une rencontre.
Il a fait une rencontre.
Un peu abstraite.
Oui, qu'il décide à partir. Mais quelque part, peut-être que tout cela n'était qu'un prétexte, finalement.
Il avait trois bagages avec lui, enfin trois bagages, trois pousses d'arbres.
Oui.
Le kozo,
oui.
Un mûrier à papier.
Oui.
Et le kozo, c'est très important parce que sans lui, on ne peut pas fabriquer le washi.
Voilà, exactement. Donc c'est à partir de ce mûrier à papier, des branches de cet arbre, qu'on fabrique le washi. J'ai voulu être très précis dans le roman, même si je ne l'explique pas, mais pourquoi il y a trois pousses ? Parce qu'il faut une pousse mâle, une pousse femelle, pour qu'il puisse y avoir fécondation. Et la troisième pousse est le tororo aoi. Mais je ne l'explique pas dans le roman, mais c'est la raison pour laquelle il y en a trois.
Et la troisième, c'est quoi alors ?
Le tororo aoi, dont je parle également.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement ?
Qui est la glue,
qui est la colle. Qui permet de coller.
Voilà, exactement, voilà.
Grâce à ses pousses, il va réussir à mener sa petite entreprise. Ouais. Et le kozo a une particularité un peu disgracieuse, ça va plaire à Gentolé, ça.
Oui, les fleurs mâles ressemblent à des phallus qui retombent après l'effort. Et les fleurs femelles ressemblent à d'étranges testicules remplis de petits poils. Enfin, l'ensemble est vraiment très disgracieux. On a vraiment l'impression que ce sont des mauvaises herbes, finalement.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà.
Et ça pousse très facilement, d'ailleurs.
Et ça pousse très facilement, voilà.
Il y a des trous dans les feuilles.
Oui.
Ouais, c'est très moche comme plante.
Oui, c'est vraiment moche. ça pousse partout. Et j'ai appris, après l'écriture de mon roman, qu'effectivement, on cultive le kozo en Italie, beaucoup plus bas, dans la région de Naples.
Ah ouais,
oui. Donc, je l'ai appris par la suite. Donc, la réalité rejoint la fiction, finalement.
Après avoir écrit le livre.
Oui.
Bah,
oui.
Décidément, vous n'allez pas au Japon. Finalement, le kozo, on le cultive en Italie.
Voilà. Est-ce que j'ai écrit mon roman ?
Ouais, ça, c'est autre chose. C'est le fruit du hasard, hein, sans faire de jeu de mots. Allez, on va écouter la BO du roman. Jean-Marc Cessy, on vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre livre. Oui. C'est la BO, en fait, de votre livre. Vous avez choisi Beethoven, Sonate au clair de lune, par Daniel Barenboim. Oui. Et on écoute un extrait, vous allez nous expliquer. Qui illustre la délicatesse de votre livre, Jean-Marc Cessy, même si moi, j'aurais pas imaginé cette musique là-dessus. Pourquoi ce titre ? Pourquoi Beethoven ?
Pourquoi l'interprétation de Daniel Barenboim ?
Oui,
c'est ça, en fait, qui fait tout. C'est une musique que l'on peut jouer en troisième ou quatrième année du piano, mais qu'on ne peut pas interpréter comme lui le fait. C'est le seul interprète qui arrive à mettre du silence dans ce qu'il joue.
Mm-hmm.
J'entends énormément de silence et de respiration. Je n'entends ça chez personne d'autre que chez lui.
Et il y a des silences dans votre livre, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
Voilà, avec des phrases très courtes, hein, voilà. Il faut expliquer aux auditeurs.
Oui.
C'est un livre très particulier, j'ai jamais vu ça, hein, d'ailleurs dans la collection blanche chez Gallimard, ou alors très très peu, si on remonte un peu loin. Mais vous avez des pages épurées, pleines de silence, pleines de non-dits.
Oui.
Et finalement, c'est au lecteur de combler ces passages-là, mais c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire.
Oui, exactement. J'ai mis beaucoup de silence parce que dans mon processus d'écriture, j'ai écrit avec dans la tête une paire de ciseaux. Et j'ai coupé tous les mots qui, dans ma tête, faisaient trop de bruit pour la compréhension de l'histoire. Et donc, j'ai décidé de laisser l'histoire à sa plus pure expression. Je ne voulais pas les mots qui bougent et qui gesticulent partout.
Bon, ben, en tout cas, c'est réussi. On va voir si les libraires sont convaincus. Hein, Jean-Marc Cessy, Suisse, Canada ou Belgique?
Qui choisit? Belgique.
La Belgique, allons-y. Ah, en Belgique, ouais. Annick Dor.
Oui, alors moi, c'est vrai que c'est dépouillement apparent et uniquement apparent. C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit en refermant le roman, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une réelle économie de mots, mais l'épure n'est vraiment qu'apparente parce que le livre gorge de mille choses et l'ensemble donne justement un conte poétique où le silence est roi. Donc moi, pour ma part, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir, entre autres, alors aussi le savoir-faire du papier artisanal et les secrets de l'origami.
Canada, ça vous va?
Oui.
Billy Robinson, allons-y.
Oui, parfaitement. Moi aussi, je suis entré dans ce roman comme dans un songe, là, un rêve, un long poème. J'ai été tout de suite charmé là, par la trame narrative qui a fait penser là, à une suite d'Haïku. Donc, il est question de transmission d'art, de destin, de promesses que l'on se fait, de culpabilité. Alors moi, c'est des thèmes qui me plaisent beaucoup. Et c'est une fable sensible, belle, un livre à garder là, près de soi pour lire et relire, un livre dont là, j'aurais un immense plaisir à recommander à mes lecteurs.
Ça commence plutôt pas mal. Un petit dernier avec la Suisse, Dominique Bressou, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Ouais, voilà, comme tout le monde, j'ai été un petit peu surprise au départ par la construction du roman, par les phrases très courtes, les nombreuses répétitions, ce côté long haïku. Mais j'ai vraiment adoré ce roman. Surtout qu'en tant que Suissesse, j'ai trouvé le passage sur les montres et le calcul du temps passionnant. La volonté de précision dans la mesure du temps pour le capturer et se rassurer, ça donne à méditer, comme si les contraintes imposées permettaient d'apporter paix et sérénité.
Bon. Bon, il y a pire hein, comme commentaire. On va parler du temps, justement. Hein. Je rappelle, si vous rejoignez la librairie francophone, que nous sommes avec Jean-Marc Cessy, jeune auteur belge, qui publie son premier roman, l'un des romans les plus inattendus de cette rentrée littéraire. Le temps, c'est effectivement important dans ce roman, la valeur du temps. On ne peut pas tout raconter, mais le temps est relatif. Il est déterminé en fonction des règles que les hommes ont établies. Finalement, une minute, une heure, ça ne veut rien dire. C'est une valeur humaine. Et vous dites, on a plié la ligne du temps.
Oui. J'ai cherché moi-même à comprendre vraiment ce que c'est une heure. Mais je ne le sais pas. Ni une minute, ni une seconde. Ça ne représente rien de naturel, effectivement. Ce sont des plis dans la compréhension que nous avons du temps. Parce que le temps lui-même, le temps, on ne le comprend pas non plus.
C'est-à-dire, vous l'appréhendez comment le temps, alors vous? Là, par exemple, on sait qu'il nous reste 4 minutes avec
oui,
vous.
Oui,
on est obligé de se fier à l'horloge.
Oui, l'exercice que je fais, c'est de le vivre au présent. Ouais. Mais au présent, l'instant, la seconde, le moment présent.
Ouais.
Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on vit tellement dans le passé, on vit tellement dans le futur, que de se concentrer sur ce qui se passe vraiment là, maintenant,
ouais,
pour que cet instant présent prenne toute l'ampleur et exclue tout le reste, c'est compliqué.
Votre personnage, il est en manque d'amour, hein. C'est-à-dire que voilà, il a un souci avec ça parce qu'il n'a pas rencontré la femme de sa vie. On le trouve dans votre livre à la soixantaine, donc il a passé son temps à plier, à faire des origamis. À quoi sert-il d'avoir si être nous manque?
Oui, c'est-à-dire que oui.
Vous me faites peur, Jean-Marc. M'inquiétez, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais.
À quoi sert-il de posséder, d'avoir des biens, quand en fait c'est au fond de soi que l'on n'est pas bien? C'est ça la question que Kurogiku renvoie à Kasparov. Pourquoi s'attacher à des choses si en fait ce que l'on a, les avoirs que l'on a, que l'on amasse, ne nous permettent pas de nous épanouir dans ce que l'on est au fond de soi?
On va terminer avec une anecdote, une légende. L'art de plier le papier comporte des légendes au Japon, des superstitions aussi. La légende des 1000 grues.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la légende des 1000 grues?
Alors en japonais, ça se prononce donc Senbazuru. C'est une légende qui raconte que lorsque l'on plie 1000 grues en papier, eh bien tous nos vœux se réalisent, dit-on.
Et l'agence spatiale japonaise a d'ailleurs évalué la résistance des astronautes comme ça.
Oui, donc j'ai vérifié l'information parce que je ne la croyais pas moi-même.
Moi, je l'ai vérifié aussi.
Oui,
et c'est vrai.
Et c'est vrai. Ouais. Alors pourquoi? Parce que ça peut paraître finalement mais très simple, très simpliste même de plier un origami. Mais voilà ce qu'ils font. Ils comparent la façon dont les astronautes plient le premier avec le treizième, avec le 600e, avec le 1000e, pour évaluer la constance avec laquelle les choses se font. On voit les exercices aujourd'hui, on envoie des hommes à Hawaï se retirer du monde pendant un an. Eh bien, un autre exercice est de plier 1000 grues pour voir la patience, la résistance mentale avec laquelle il est possible d'avancer, d'exécuter des actes très précis.
Très bien, mais écoutez Jean-Marc, merci beaucoup. Tout le monde vous écoute avec une attention incroyable. J'ai jamais vu le plateau comme ça, avec Florence Sestin comme ça, qui est subjuguée.
Oui.
Le pliage, c'est vrai que vous pourriez, vous, entre deux dessins.
Bien sûr.
Faire des grues, vous avez mille à faire, ça va ?
Bien sûr.
C'est jouable. Merci Jean-Marc Cécile. Merci beaucoup. Monsieur Origami est publié aux éditions Gallimard. Lisez ce livre, quel que soit votre âge. J'incite aussi les ados qui nous écoutent à lire ce roman. C'est un roman universel pour tous. Merci Jean-Marc, bravo. Dans quelques instants, on parle des religions avec deux personnalités qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils n'ont rien dans les poches d'ailleurs, n'est-ce pas Jean-Tolé ?
Rien du tout.
Qu'est-ce que vous avez dans votre poche, vous ?
Mes clés.
Bah, c'est tout.
Voilà, ouais.
Bah, simple, un homme simple.
Mais oui, ça c'est tout moi. Ça.
Une grue de papier.
Oui.
Florence Sestac et Jean Tolé dans la librairie francophone, juste après la musique aérienne du chanteur québécois Peter. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends. Je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures AM seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille et quand elle parle défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film, c'est un film noir, c'est un film noir, noir et blanc. J'écris mes aveux dans le bloc-notes. Soudain quelqu'un rentre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre et dévore tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir, oui je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir.
Bien mieux que le Canadien Justin Bieber, la musique planante du Canadien Peter et sa rime Noir Eden sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
On vous propose de la douceur aujourd'hui dans la librairie, dans ce monde de brut. Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est le principe cette saison. Vous l'avez compris si vous nous suivez depuis la rentrée. On commence dans le rayon des romans contemporains avec Billy Robinson. Coup de gueule ou coup de cœur, Billy ?
En fait, c'est un gros coup de cœur. Alors, pour le nouveau roman de Larry Tremblay, L'impureté, publié là, chez les éditions Alto. Un homme qui voit son univers bouleversé lorsqu'il lit le dernier roman de sa femme, publié à titre posthume, et dont il n'a jamais apprécié l'œuvre. Donc, c'est un fantastique roman, la construction parfaitement maîtrisée par ce grand dramaturge, et que vous allez devoir relire, là, comme pour bien saisir toutes les nuances. C'est un, d'après moi, là, un futur classique de notre littérature d'ici.
Futur classique, rien que ça. Larry Tremblay, L'impureté, aux éditions Alto. Merci beaucoup, Billy. Dans la catégorie des bandes dessinées, on part en Belgique avec Annick Dor. Coup de gueule, coup de cœur. Annick, quoi donc ?
Ah, coup de gueule pour moi. À l'encontre de certaines BD sans texte, de qualité franchement discutable. Alors je pense notamment à ces BD humoristiques qui ont pour sujet un sport. On a par exemple les Foot Furieux chez Joker Édition, mais il y en a beaucoup d'autres, où le scénario est assez basique. Alors les clients sereines n'ont pas toujours beaucoup d'idées, alors ils se tournent par facilité quelque part vers ce genre d'album, parce que voilà, le petit garçon à qui ils doivent faire un cadeau, il aime le foot. Et je pense que c'est vraiment là que le libraire indépendant, il doit intervenir, parce qu'il existe vraiment de très bons albums sans texte. Alors je pense notamment, bon là c'est pour des plus jeunes, mais à l'excellente série Petit Poilu chez Dupuis, qui est son texte et qui est génial.
Ouais, c'est le volume 19 déjà de Petit Poilu. Ouais. Très bien, merci Annick, c'est aux éditions Dupuis, vous l'avez dit. Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Florence Sestac et Jean Telet sont dans la librairie pour la BD Fille des oiseaux, parue chez Dargo, préfacée par Jean Telet, et pour le nouveau livre de Jean qui sortira le 1er octobre et dont nous allons vous parler en avant-première. Alors Jean, j'ai eu la surprise de constater que la préface de la BD, on la retrouve dans votre livre, qui est un recueil de textes, hein, soit dit en passant. Vous vous recyclez vous-même, vous.
Mais j'étais en train de faire le livre quand Florence m'a demandé de lui écrire une préface, et puis j'ai écrit cette préface, je l'ai fait lire à mon éditeur qui m'a dit, mais attends, ce texte, il a sa place dans ton livre. Mmh. Alors du coup, comme c'était un livre totalement libre, il y a une histoire qui s'appelle Préface, et puis c'est la préface du livre de Florence.
Et voilà. Ça, qui renvoie la BD d'ailleurs. Et
exactement.
Ça fait la promo pour la BD dans un livre.
Et ouais.
J'avais jamais vu ça encore.
Non. Non.
Que des premières aujourd'hui.
Mais oui, puis dans ce livre, moi je voulais faire des choses qu'on trouve pas d'habitude dans les livres.
Voilà. Alors on va en reparler tout à l'heure. Florence Sestac, cette BD évoque la religion catholique dans un pensionnat de jeunes filles à côté de Honfleur en Normandie. Vous y avez passé une partie de votre adolescence et vous écrivez, on frisait l'overdose avec la leçon de morale.
Exactement. Oui, c'était en continu, avec prière le matin, le soir, avant les cours, après les cours, après manger. Donc on n'en pouvait plus, quoi. On n'en pouvait plus. Donc c'est devenu effectivement un peu l'école de la contestation, parce que fallait évacuer tout ça, quoi.
Trop de religion empêche d'être pieux.
Assommé. On vous en dégoûte à vie, quoi.
Ah
je
oui.
pense. Ah oui,
c'est
oui.
Vrai.
Ah oui, overdose. Oui, j'ai fait
vous
une
n'allez
overdose.
Plus à l'église.
Je vais plus à l'église. Oh. Oui, je suis désolée de vous annoncer ça.
mais c'est surtout aux bonnes sœurs qui nous écoutent à Honfleur.
Oui.
Vous imaginez le choc.
Il n'existe plus ce pensionnat.
Ah bon.
Voilà. C'est bon, là. À cause de ce qui s'y est passé, d'ailleurs, que je raconte dans le livre.
Oui, avec le drame.
Une fille qui s'est retrouvée enceinte. À la pension, vous vous rendez compte.
Non, mais ce qui est terrible, c'est ce qui suit.
Oui.
C'est-à-dire que là, effectivement, vous pointez du doigt cette religion, et puis la bourgeoisie aussi, qui peut détruire une vie de façon très radicale.
Exactement.
C'est vrai cette histoire de suicide derrière ?
Non, le suicide, j'ai inventé.
Ouais.
Et c'est pas mon frère. Voilà. Je l'ai inventé, mais la fille qui se retrouve enceinte dans le pensionnat des sœurs, ça a vraiment existé. J'ai vécu.
Alors en tout cas, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes dégoûté de la religion et que du coup, ça vous a écarté de votre vie adolescente. Et dans les rues de Honfleur, je donne un exemple, quand vous baladiez avec les bonnes sœurs, elles vous mettaient en garde face au péché qui passait près de vous. Le péché, c'est les ados, les gamins, les jeunes,
les hommes,
garçons.
Les hommes, voilà. Quand on croisait en promenade deux par deux au milieu de la ville, on croisait un groupe de garçons et les sœurs nous disaient « baissez les yeux mes filles, voilà le péché qui passe ». Et donc ça vous marque à vie. Alors j'avais besoin de le restituer là, parce que effectivement tout était péché. Et c'est toujours pareil, toutes les religions ont un problème avec le corps de la femme, toujours. Ouais. Il fallait qu'on se cache, il fallait qu'on mette des grandes jupes, il fallait qu'on mette des chaussettes, se mettre un foulard pour entrer à l'église. Voilà, on n'est pas loin du burkini et autre chose comme ça, quoi.
En tout cas, vous êtes rattrapé maintenant, parce que vous fréquentez Jean Telet.
Ah bah oui, on s'est lâché depuis.
Qui, dans la préface, oui. Vous y allez franco comme toujours, Jean, on vous reconnaît, vous écrivez.
Formidable.
Après l'emmerdement des soutanes avec des mortifications de cilice, voilà la chirie des djellabas avec des prisons grillagées de burqa et les tristes morales qui l'accompagnent. Jésus, paraît-il, n'aurait jamais ri de sa vie. Et Mahomet ne semble pas avoir bouffé un clown. Putain, ça donne envie, d'une religion à l'autre, oh, les empêcheurs d'aimer en rond.
Ah ouais, ça fait chier ça, les religions.
C'est beau, hein.
Vénus Koyata a l'air d'accord.
Vous pouvez
parler, Vénus, hein. Oui, elle me montre son pouce, mais...
Je trouve, ce
n'est pas filmé, Vénus, c'est encore de la radio, on résiste, vive la radio.
Je trouve magnifique ces quelques phrases, vraiment, elles décrivent ce que c'est la religion, comment elle réduit les gens à très peu de choses.
C'est gentil. Jean. Oui, moi, je suis effondré. Ce qui va me plus surprendre, moi, quand je vais avoir terminé ma vie, c'est d'avoir assisté au développement des religions et tout. Ça me paraît tellement archaïque et tout. Que avant même d'avoir un avis, de me moquer ou pas, je suis étonné. Je trouve ça invraisemblable.
Oui, parce qu'en fait, l'histoire vous rattrape un peu, Jean, si je peux me permettre. Parce que tout ce que vous avez écrit, avec l'histoire de France, hein, je me rappelle de Charlie Neuf, Héloïse Houille, ou l'histoire d'Abel. En fait, ça. C'était à chaque fois la religion, la Saint-Barthélemy. C'est atroce. Et tout ça, vous le racontez avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, dans vos romans, qu'il faut lire. Hein. Charlie Neuf, c'est un chef-d'œuvre, donc je le dis à chaque fois. Mais je vais arrêter, mais c'est un livre magnifique qu'on trouve en poche. Et du coup, là, on se retrouve aujourd'hui avec un peu des problèmes semblables.
Mais oui. Là, on se barre vers la Saint-Barthélemy. Là, tout se met en place. Et il va y en avoir une. Ça va repartir, ces conneries-là. Que de souffrances, que de gens en larmes, que de morts, il y a pas longtemps, j'ai entendu, puis c'est marrant parce que ça fait presque pas de place, je sais plus dans quel pays, genre Arabie Saoudite ou un truc comme ça, où une femme était avec une copine dans la rue, a éclaté de rire. Elle a été arrêtée, jugée et lapidée à mort. Pour avoir ri en public. Mais parce que, selon la religion, on ne rit pas. Mais c'est pas possible, ça, quand même.
On interdit beaucoup de choses. Alors, on le voit avec Florence Sesta, quoi. C'est moins grave, hein, parce que vous, c'est plus anecdotique, évidemment. Mais n'empêche que ça révèle quelque chose. Parce que, au pensionnat des oiseaux, on ne met pas de tampons hygiéniques, mais des serviettes. Le tampon, on vous dit, c'est l'objet de Satan.
Exactement, parce qu'on allait percer notre hymen, c'était très grave, il fallait arriver vierge au mariage, donc tout était comme ça, quoi. Et donc, il y a 50 ans, c'est pas si vieux que ça, effectivement, on pensait en s'être débarrassé de tous ces problèmes de religion et de castration pour la femme, et ça revient très vite, quoi.
Vous avez des cours de couture aussi.
Oui.
Et on vous dit, n'oubliez pas que l'aiguille est à la femme ce que la plume est à l'écrivain.
Ah, merveilleux, non? C'est merveilleux. Et je l'ai pas inventé, toutes ces phrases ont été vraies.
Horrible.
Je les ai retenues dans ma tête de petite fille, quand même. Donc c'est grave.
Bon, dans votre recueil de textes, Jean Tellet, qui, je le rappelle, sortira le 1er octobre, il y a beaucoup d'humour, des réflexions sur la vie, des dessins, des photos, des souvenirs. Souvenirs des attentats, par exemple. Et on ne vous attendait pas du tout sur ce terrain, Jean Tellet. Ces horreurs qui vous ont incité à vous replier dans une vieille maison.
Oui.
Et à brûler des journaux où il y avait ces informations.
Oui, c'est ça. Il y a une histoire qui raconte ça, où c'était en fin d'année 2015, où je mettais les journaux au feu, et puis je voyais les photos des attentats de novembre, des corps qui se pliaient, et puis tout ça partait en fumée et tout. Et puis je me disais, bon sang, vivement qu'un jour arrive un printemps, une sorte de printemps, et j'avais envie de raconter des choses comme ça. Moi, j'ai été très très marqué par ce qui est arrivé à Charlie, puis ensuite, et puis partout, et j'avais plus envie de faire de livres historiques, jusque-là, les derniers livres, c'était des livres historiques avec des horreurs et tout. J'avais pas envie de rentrer en surenchère d'horreur à toutes ces catastrophes. J'avais envie de répondre par la douceur, bizarrement. Et puis, je voulais m'intéresser aux gens d'aujourd'hui, et puis j'avais envie d'aller voir des gens un peu partout quand je fais des dédicaces, tout ça, un petit peu partout en province, et demander à chaque personne, racontez-moi une histoire qui vous est arrivée où au départ, ça va pas bien. Il y a un problème, n'importe quel, mais à la fin,
c'est
on
positif.
Respire. Et dans ce livre, je voulais qu'il y ait 40 histoires qui soient comme 40 respirations. Je trouve que l'époque, là, en ce moment, devient très étouffante avec tout ce qui va se passer, les élections, Trump,
Le Pen, machin, tout ça. Et que, bon sang, on a besoin de respirer.
Mais alors, si je peux me permettre, Jean, quand même, on a l'impression, d'ailleurs, Florence, ça vous concerne aussi, on a l'impression qu'avec cette BD et avec ce livre, finalement, vous avez une envie, peut-être inconsciente, de rééquilibrer le jugement.
Oui, mais...
Ça réajuste les choses.
Mais moi, quand je vois, j'écoute les infos et tout ça, on nous annonce que des catas et tout, je me dis, mais pendant ce temps-là, par exemple, il y a un petit gamin, comme il y a dans l'histoire, qui à 9 ans apprend son prénom.
Elle est belle, celle-là.
Pendant ce temps, il y a un petit oiseau qui tombe d'un nid, qui donne naissance à une histoire d'amour. Pendant ce temps, il y a un couple de personnes âgées qui décident de s'offrir un truc très original pour Noël. Et de faire le pendant de ce truc-là.
Ouais.
J'avais envie de raconter des histoires minuscules, toutes vraies. Elles sont toutes vraies. Des gens qui se débrouillent avec leur courage, leur solidarité pour respirer, quoi.
Tout est vrai, sauf Laurence Estac.
Oui, bon, enfin, ouais.
C'est
vrai.
Préface, c'est pas une histoire, c'est une préface.
Oui.
En tout cas, ce sont deux ouvrages qui valorisent la liberté à la fin de la BD, Florence. La BD qui passe d'ailleurs, j'ai relevé du sépia, il y a une couleur, un peu marron, beige, oui. Vous jouez avec ces tons-là. Voilà. Et sur la dernière planche, il y a une page pleine couleur.
Exactement.
Et là, on est à mai 68 avec l'émancipation des femmes et des slogans comme « Un homme sur deux est une femme
oui. »
ou encore « Ce n'est pas la B. »
C'est pas la bite qui nous dérange, c'est le mec qui y a autour.
C'est ça.
Merveilleux.
C'est
ce camp du MLF est vrai.
La B, voilà. Enfin, je voulais pas dire le mot, mais...
Mais je le dis pour vous.
On va finir avec un petit cadeau. Tiens, écoutez, les Beatles, vous vous souvenez ?
Oui.
De la douceur, du positif, on vous le dit dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Sestac.
Merci.
Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde, c'est le sous-titre, est paru chez Dargaud, préfacé par Jean Tellet, le nouveau livre de Jean, très attendu par le public. Vous allez être surpris, hein. Vous verrez. A pour titre, Comme une respiration, c'est chez Julliard et ça sort le 1er octobre. Merci d'être venu dans la librairie francophone pour cette avant-première, Jean.
Merci à vous.
Cher Jean, frère Jean.
Oui.
Et sœur Florence, merci aussi pour votre fidélité.
Merci mon fils.
Je vous en prie.
N'oubliez pas que le Seigneur vous écoute.
Exactement. Et d'ailleurs, vous restez avec nous, il y a une petite surprise à venir. Dans cette plus grande librairie du monde, on part au Maroc avec Yacine Retnani qui veut pousser un gros coup de gueule depuis sa librairie Carrefour des Livres à Casablanca.
Exactement.
Allez-y.
Voilà, donc moi c'est un gros coup de gueule en effet. Donc moi je trouve que c'est pas normal qu'en 2016, à travers le monde, les libraires indépendants, francophones, n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu et remettent en cause quotidiennement leur existence. Donc j'ai un message en fait à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, et surtout les instituteurs, les administrations, les grandes sociétés privées et publiques, aient le réflexe d'acheter leurs livres dans les librairies indépendantes de leur pays, et il y en a. Il suffit d'aller sur le site de l'AILF, librairiefrancophone.org, pour le constater. Je parle en mon nom, mais aussi au nom de tous mes amis libraires à travers le monde qui font un travail formidable pour la diffusion de la langue française, de la francophonie, de la culture, de l'ouverture d'esprit. Et une grosse pensée, voilà, vu que votre invité est Vénus Khouriata, qui est libanaise, une grosse pensée à Michel Chouéry de la librairie Elbouche, qui a perdu sa librairie l'année dernière.
Exactement.
Et qui a fermé. Et ça, voilà, c'est juste affreux. Et puis j'espère que ça va arrêter, que les librairies indépendantes vont continuer à exister.
Très bien.
Et voilà.
Vous avez raison. Il faut défendre les librairies indépendantes. On a soutenu Michel Chouéry jusqu'au bout. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et malheureusement, la librairie Elbouche à Beyrouth n'existe plus. On était allé le voir. Je me souviens, c'était avec vous, Vénus.
Ensemble.
Oui, oui, exactement. Voilà. Bon, ben vous avez raison. C'est bien. Merci beaucoup, Yacine. Il y a un coup de cœur aussi avec un livre marocain. On va vous mettre ça sur le site internet avec votre texte, le coup de cœur de Yacine Retnani que vous pouvez trouver sur internet. Merci à vous. Pour la catégorie des polars, on part en Suisse. Dominique Bressoux, coup de gueule ou coup de cœur ?
Alors, un grand, grand coup de gueule.
Oui.
La maison Gélogresse, le dernier livre de Harold Cobert aux éditions Plomb. En fait, il s'est lancé dans une pseudo-analyse psychologique de la femme d'un pédophile célèbre, à savoir Fourniret. Et si le but de la manœuvre, c'est de montrer que les femmes sont des hommes comme les autres, ça m'a pas convaincue. Et surtout, la littérature devrait pas être à mon goût l'occasion de se complaire description détaillée de ses vices sur des enfants. Je suis sortie de ce livre très triste et avec l'impression d'être salie. Qui plus est, je ne comprends pas que lorsqu'on est capable d'écrire un hiver avec Baudelaire que j'avais adoré, on publie ça.
Bien. Bon, ben voilà, Harold de Cobert, si vous nous écoutez, c'est aux éditions Plon. Merci beaucoup pour cette parole franche, Dominique. La librairie francophone avec Jean-Marc Cessy, Florence Sestac, Jean Tellet et Vénus Kourigata, poète et écrivain originaire du Liban. Vous avez choisi de raconter les derniers jours d'Ossip Mandelstam, grand poète russe qui n'a jamais pu publier de son vivant en raison de son opposition à Staline. Un fameux poème dont nous parlerons tout à l'heure lui coûtera la vie. Il y a beaucoup d'admirateurs de Mandelstam à travers la francophonie. On se demande d'ailleurs pourquoi vous vous attaquez à ce sujet très éloigné des thématiques de votre œuvre, Vénus.
En 2009, la revue Europe, avec Jean-Baptiste Parra, qui la dirige, a consacré un numéro spécial de Mandelstam. Mm-hmm. Et j'ai été complètement bouleversée par le destin de cet homme, qui, à cause de deux vers, on n'entend que le paysan du Kremlin, l'assassin, mangeur d'hommes. Le mangeur d'hommes, l'assassin, ne l'a pas lâché d'une semelle. Mmh. Pendant des années, des décennies, il l'a envoyé d'exil en exil, d'arrestation en arrestation, de prison en prison. Le premier exil à Voronej, où il a connu la faim, le froid, 10 mètres carrés d'appartement, dans un appartement communautaire. Et ils avaient faim, ils n'avaient pas le droit d'écrire, ils n'avaient pas le droit de gagner sa vie. Sa femme essayait de traduire des romans bon marché pour pouvoir payer le loyer. Mmh. Il sortait la nuit dans la neige pour regarder les gens manger à travers les fenêtres des restaurants. Il salivait en regardant les assiettes des autres. Il n'avait même pas le droit d'écrire. Il sortait la nuit, il pataugeait dans la neige, il écrivait ses poèmes dans sa tête, il venait les dire à sa femme.
Voilà, ça c'est l'histoire du livre. On va revenir sur cette histoire absolument terrifiante après un tube francophone repris par le groupe algérien Gnawa Diffusion, créé par le fils de l'écrivain Kateb Yassine. Je vous laisse deviner le titre et en plateau, tout le monde participe, vous allez tous reconnaître, vous allez voir, on verra. Merci à vous d'écouter la librairie francophone.
Elle est à toi cette chanson, toi l'auvergne qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants et les croquants. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants et les croquants. Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Qu'il te conduise à ta traversière, ô Père éternel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquants et les croquants. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquants et les croquants. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croque mort t'emportera. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Qu'il te conduise à paraversière, ô Père éternel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon. Ton air malheureux m'a souri lors
lorsque des gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les coroquants et les coroquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Toi l'étranger quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Qu'il te conduise à ta traversière, ô Père éternel.
Le groupe Gnawa Diffusion qui reprend donc
Brassens.
Bravo Gentelet. Et le titre, Florence Sestac, Chanson pour l'Auvergnat.
L'Auvergnat, oui. Ouais.
L'Auvergnat,
pardon.
Voilà. Je préfère Brassens.
Ah oui, vous n'avez pas du tout aimé Vénus.
Non, du tout.
Bon, en tout cas, voilà. Gnawa Diffusion sur Easy Radio-Canada Première. RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Quand je vous dis que tout le monde dit ce qu'il pense ici, Vénus Corrigata est dans la librairie francophone pour les derniers jours de Mandelstam. Paru aux éditions Mercure de France, le couple Mandelstam a vécu l'enfer. Ce poète a commis le sacrilège de s'attaquer par la poésie à Staline. Il est privé de permis de travail, affamé, en guenille. Aussi, Pena Dejda ne vivent que grâce aux peu d'amis qu'il leur reste. Ils font l'aumône et d'ailleurs on leur reproche un peu.
Ils sont tout le temps en train de taper leurs amis pour qu'ils leur donnent quelques roubles. Mais ce qui est terrible, c'est que on leur donnait pas du travail. Ils n'avaient pas le droit de d'écrire. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Il est devenu fou en plus.
Oui.
Et c'est ce qui m'a aidée. Finalement, sa folie m'a permis d'inventer des dialogues entre lui et Staline, oui. Ce qui était impossible.
Il y a de la folie hein, dans votre écriture, on va y revenir tout à l'heure. Certains lui disent de rentrer dans le rang, disent voilà, maintenant il faut faire amende honorable quelque part. Et vous rappelez qu'à cette époque, entre 37 et 38, lors de la Grande Terreur, on dénigrait ses proches, même ses parents, pour sauver sa peau.
Oui, on voyait des jeunes sur la place en train de dire « Je ne veux plus entendre parler de mon père, c'est traître à la patrie, il a trahi Staline. Je ne veux plus entendre parler de lui parce que la famille était aussi passible d'aller au goulag. »
Il y a des scènes avec des hommes en pleurs comme ça, qui dénigrent leur mère, leur père, sur la place publique pour sauver leur peau.
Pour sauver leur peau.
Et souvent les parents leur disaient « Mais dis-le, fais-le, sinon tu vas mourir aussi. »
Oui, c'est les parents qui ont celui qui était exilé, qui encourageait ses enfants à le faire. Et il partait dans des trains, des familles entières partaient dans des trains. Ce qui fait que Nadejda, quand elle n'arrivait plus à avoir des nouvelles de son mari, croyant qu'il était déporté aussi dans un de ces trains, était sur la gare de Vladivostok, en train de taper sur le métal du wagon pour dire « Où est Mandelstam ?» qu'il vienne me parler. Or, Mandelstam était en train de mourir à 200 mètres d'elle. Elle ne le savait pas.
700 000 morts déportés par Staline lors de la Grande Terreur. 700 000, sans compter ceux qui sont morts de faim aussi. Alors Mandelstam, avec ce poème, le fameux, on va le lire dans un instant, ne sera jamais publié de son vivant, et même après, car il a fallu attendre un changement politique pour que ce poème et les autres soient au moins tolérés.
Il a fallu l'arrivée de Khrouchtchev et que Nadejda ose enfin se montrer. Elle partait allait d'une ville à une autre, se cacher chez des amis sûrs qui avaient caché des poèmes de Mandelstam dans des chaussures, dans des casseroles, dans un oreiller cousu pour qu'on ne le retrouve pas. Parce que si on retrouvait le poème de Mandelstam dans une famille, toute la famille était exilée aussi. Donc il a fallu l'arrivée de Khrouchtchev et que Nadejda cesse de fuir et qu'elle ait pu ramasser tous les poèmes qu'il a éparpillés partout
pendant
dans le monde.
Pendant 20 ans, elle va faire des recherches.
Non, parce que il l'a réveillé la nuit, il lui demandait de réécrire les poèmes qu'il avait écrits dans sa tête, puis d'aller les déposer chez les amis. Et quand il se réveillait la nuit, il disait « Mais ce poème, j'ai commencé par ce vers, qu'est-ce qu'il y a après ? Nadejda, rappelle-toi !» Nadejda ne pouvait pas se rappeler, il l'envoyait la nuit chez les amis pour savoir quelle est la fin du poème.
Alors ce poème, si longtemps interdit, que Mandelstam aurait aimé déclamé en public. Eh bien, nous allons le lire. À 4, c'est le son du monde de la semaine. Florence Sestac, Jean Tellet, Vénus Corrigata et moi-même, nous allons rendre hommage à Mandelstam en lisant ce poème sur l'hymne russe de l'époque de Staline. On lui offre sa revanche avec pour la première fois son poème lu et diffusé dans le monde entier par les ondes et évidemment par Internet grâce à cette émission diffusée à travers toute la francophonie et même au-delà.
Nous vivons insensibles au pays qui nous porte. À 10 pas, nos voix ne sont plus assez fortes. Mais il suffit d'un semi-entretien pour évoquer le montagnard du Kremlin.
Ses doigts épais sont gras comme des asticots et ses mots tombent comme des poids de 100 kilos. Il rit dans sa moustache énorme de cafard et ses bottes luisent, accrochant le regard.
Un ramassis de chefs aux coups minces l'entoure, sous hommes empressés dont il joue nuit et jour. L'un siffle, l'autre miaule et un troisième geint. Lui seul tient le crachoir et montre le chemin.
Il forge oucase sur oucase en vrai forgeron, atteignant telle haleine, telle à l'œil, telle au front. Et chaque exécution est un régal dont se pourlèche l'ossette au large poitrail.
Le poème maudit de Mandelstam, celui que Staline a condamné, celui qui a condamné ce poète russe, Ossip Mandelstam, sur le chant patriotique, hymne de l'époque stalinienne. Voilà Vénus, la culture est un acte de résistance.
Oui, j'aimerais dire une chose, et que mort depuis 3 jours dans ce camp de déportés, ses camarades autour de lui, rien que des criminels et des prisonniers, continuer à lui lever le bras chaque fois que passait celui qui distribuait le pain pour faire croire qu'il est toujours vivant, pour qu'il distribue sa miche de pain entre eux.
On va voir du côté des libraires ce qu'ils ont pensé de votre roman, livre historique, Vénus Corrigata. On va donner la parole, la peur, mais non, donner la parole au Maroc. Ça vous va? On commence par le Maroc. Yacine Retnani, que pensez-vous de ce roman?
Moi, c'est un gros coup de cœur et j'ai envie de dire, Staline doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui.
c'est clair. Eh ben, qu'il se retourne dans sa tombe. Voilà.
Donc voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un texte très très fort. Et voilà, Mandelstam disait, un jour je serai lu par des millions de personnes. Et ben, j'ai envie de dire, pari gagné, que voilà, grâce à Vénus Corrigata, grâce à vous aujourd'hui, que cela va plus loin, en fait. Ça donne envie de lire les poèmes de Mandelstam. Et à travers ce livre, nous découvrons le rôle et l'importance des poètes aussi de cette époque-là. Et en d'autres termes, c'est un livre magnifique qui a permis de découvrir qui était Mandelstam, grand poète russe du début du XXe siècle, et qui m'a envie d'aller au-delà de ce livre.
Merci.
Merci Yacine. Annick Dor en Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait, c'est un très beau texte. Hein. C'est vrai que ce poète russe, vous parvenez vraiment à nous le rendre vivant dans cet enfer stalinien où la délation est de mise, où les espions sont partout. Alors c'est vrai que c'est terrifiant de voir que par peur, même certains de ses amis finissent par cesser de l'aider. Et puis ce qui est frappant aussi, c'est à côté du poète, il y a aussi sa femme dont j'ai admiré le courage et la ténacité. Elle se plaint jamais, elle lutte pour lui, elle protège son œuvre avec une sorte d'abnégation sans faille qui est vraiment remarquable, j'ai trouvé.
Avant de parler de sa femme, juste un petit reproche, Vénus, si vous permettez. Vous avez choisi une narration un peu abstraite, non linéaire, avec des mouvements de va-et-vient, des répétitions historiques aussi, des personnages importants comme ça, de l'histoire, la grande histoire, qui apparaissent très brièvement. Et on se perd un peu dans la chronologie des événements que vivent les Mandelstam. Du coup, on est tenté de vérifier, on est tenté de compléter les informations. Et c'est vrai qu'à force de persécution, vous l'avez dit tout à l'heure, ce poète est tombé dans la folie. Et il y a de la folie dans votre écriture.
Après la biographie de sa femme, Nadejda Contre-Espoir, parue chez Gallimard, personne n'a le droit d'écrire une biographie de Mandelstam. Et il fallait trouver autre chose. D'accord. Tous ceux qui ont essayé de le faire n'ont fait que copier Nadejda. Bah oui. J'ai trouvé autre chose. J'ai, comment vous dire, jeté par éclat, par morceaux, les douleurs, les souffrances, la faim, la misère de ce couple, en plus de ces dialogues entre lui et Staline qui ont toujours lieu dans un souterrain où il se retrouve, lui, sa folie permettait ce genre de
avec
choses.
Avec un peu de poésie, parce que vous utilisez la poésie.
Certainement.
Et vous êtes poète vous-même.
Il est
donc,
poète, oui. Et puis oui. Le dialogue avec Staline, c'est dû à sa folie. Oui. Fou comme il était devenu les 6 derniers mois, enfermé sous sa couverture mitée dans le camp de Vladivostok, il pouvait très bien s'imaginer des dialogues entre lui et Staline en train de lui expliquer que s'il l'a enfermé là, c'est parce qu'il avait peur de lui et que lui va vivre avec ses poèmes, l'autre ne vivra pas au-delà de son époque.
Alors il a toujours eu peur de ses déportations. C'était terrible parce que sa femme avançait l'heure. Généralement, les rafles se produisaient vers 18h et donc elle avançait à 19h l'horloge pour lui éviter d'angoisser. Mais un jour, voilà, ça arrive. On débarque chez eux, on dit à Nadejda de ne pas préparer de valise. Il est officiellement condamné à 5 ans de travaux forcés dans un lieu de son choix, mais c'est un piège. Et sa femme va aller le voir, va essayer de le retrouver, vous l'avez dit aussi. Elle tape sur les wagons, elle est là comme ça, sur les quais, pendant des semaines entières. Et elle rentre chez elle, folle de désespoir, et elle retrouve un colis.
Le 27 décembre 1938, on lui rend le colis qu'elle a envoyé, on lui dit « il est décédé ».
Retour à l'envoyeur pour cause de décès.
Exactement.
Elle le sait comme ça.
Et elle a passé des journées entières sur le quai de la gare en train de chercher Mandelstam qui est dans un wagon et surtout de déplier les papiers que jettent tous les prisonniers, les déportés. Ils écrivaient des mots à leurs parents. Ils les jetaient sur le quai pour dire « je suis là, je m'appelle comme ceci, dites à mes parents que je suis en train de partir vers la Sibérie ». Et elle dépliait tous ces papiers pour savoir si l'un d'eux appartenait à son mari.
Et pendant 20-30 ans, elle va comme ça recueillir ses poèmes pour enfin les publier. On va donner le mot de la fin à un libraire, Vénus, Billy Robinson, qui est au Canada, qui a lu votre roman. Billy, vous avez un avis plutôt favorable?
Oui, tout à fait. Alors, comme mes collègues, alors ce livre est bien plus qu'un trop court roman biographique. Là, il s'agit d'un plaidoyer puissant sur le pouvoir des mots et l'absence de véritable démocratie. Donc, c'est rédigé à l'aide d'une écriture sensible, poétique et précise. Un rappel de ses voix et de ses âmes, surtout là, qui se sont tues dans le silence.
Vous avez séduit nos libraires, Vénus.
Merci.
Une nouvelle fois.
Merci, mille fois. Merci.
Elle est toujours émue, Vénus, hein, quand elle est soutenue par les libraires. Merci beaucoup, Vénus Corrigata. Votre roman Les derniers jours de Mandelstam est paru aux éditions Mercure de France. Merci, Jean Tollé.
Merci à vous.
Vous avez été très sage. Hein.
Oui, vous avez vu. Hein,
quelle belle lecture.
Un exemple pour la jeunesse.
Merci, Florence Sestac.
Merci.
À très bientôt.
Merci.
Vous êtes fidèles tous les deux. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Jean-Marc Cessy, bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Chef d'orchestre. Comme tu fais ça.
Merci.
Comme un chef d'orchestre. La librairie francophone,
Emmanuel Guérade. Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le duo Polo et Pan et un extrait de Canopée.
Luxuriante, d'une jungle exubérante.
Canopée, titre de Polo Epan, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Éric Morin. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouet en Suisse. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Magie de chère fille avec un titre interprété dans nos studios. Le Suisse Metin Arditi. Et nous irons en Iran avec la revue 6 mois. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut.